Le journal, Sébastien Logeni, bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est Noël pour les agences d'intérim. Des ingénieurs en informatique français viennent d'inventer un algorithme pour aider à recruter les demandeurs d'emploi information. France Inter à suivre dans un instant. L'autre titre ce matin, c'est la suite de la crise des Gilets jaunes avec un samedi encore très tendu, notamment en Charente avec une mise à mort symbolique du chef de l'État. Alors que risquent les auteurs de cette macabre mise en scène? Réponse dans ce journal. Les Gilets jaunes aussi accusés de dégrader les radars. Deux tiers seraient touchés au risque de faire flamber l'insécurité routière. Au programme également le Noël des catholiques chinois, le premier depuis un accord passé entre Pékin et le Saint-Siège. Attention aux infarctus, ce soir c'est le pic des attaques cardiaques à 22h. Et enfin, rendez-vous en fin de journal avec des enfants qui font tout pour croiser la hotte du gros bonhomme rouge.
Dans 20 minutes, je reçois Guillermo Guise, l'humoriste belge qui sera sur scène au Bataclan cette semaine, suivi de Relire Hugo avec Guillaume Gallienne et Laura Elmaki.
France Inter.
Quand l'ordinateur prend le pas sur les DRH.
Oui, c'est une première en France que nous vous révélons l'intelligence artificielle au secours des agences de recrutement. L'idée a germé dans le cerveau de 4 ingénieurs de l'école centrale, faciliter la tâche de ceux qui embauchent, souvent engloutis sous une montagne de CV. Ils pensent avoir trouvé la solution avec ce qu'on appelle un algorithme, un programme informatique pour faire vite, qui permet de choisir le bon candidat en évitant toute forme de discrimination. L'algorithme DRH est testé depuis un an dans une agence d'intérim parisienne. Reportage Laurent Kramer.
Merci à toi, au revoir, à bientôt.
Intérim, bonjour.
Comment examiner 800 CV reçus quotidiennement dans cette agence d'intérim? Un chatbot, un robot étudie l'intégralité des CV, puis engage une conversation par écrit avec chacun des profils.
Et là, ça démarre. C'est quoi une crème pâtissière? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi composer ce millefeuille?
Conversation qui prend vite des allures d'entretien d'embauche pour aller au-delà des simples informations disponibles sur le CV, explique Stéphane Najba à la tête d'Intérim Co, spécialisé dans le recrutement de pâtissiers et de boulangers.
On a des profils qui ne savent pas se valoriser. Et imaginez le temps que devrait passer avec 700 CV une chargée de recrutement à poser ces questions. Combien de fois on a entendu des candidats qui disent « j'en peux plus, des entreprises qui ne me répondent pas ». Eh ben nous, on répond de manière systématique.
Intelligence artificielle développée par des ingénieurs de l'école centrale Supélec qui n'évalue les candidats que sur des critères d'expérience professionnelle.
On a des personnes de tout horizon qui viennent et qui ont les compétences qui sont trouvées par le moteur qu'on ne voyait plus. On n'arrivait plus à les trouver parce qu'on peut avoir 500 CV de vendeurs, aller trouver pourquoi ils sont bons, pourquoi ils sont pas bons. Quand on trie 100, 200, 300, 400 CV, on est avec les a priori. Les adresses, le nom, et puis on en oublie l'essentiel.
Ça te faisait prendre des notes.
Robot qui permet à l'agence de passer l'essentiel de son temps en entretien et non plus à trier des CV. 90% des candidats reçus en agence se voient proposer ensuite un contrat.
Laurent Kramer, l'algorithme pour les DRH est à retrouver sur franceinter.fr.
7h33, Sébastien Logier. Y aura-t-il des gilets jaunes à Noël?
Des gilets jaunes sur les Champs-Élysées, c'est ce que certains envisagent en tout cas de faire ce soir. La mobilisation faiblit, mais ne s'éteint pas donc. L'acte 6 a rassemblé, je vous le rappelle, plus de 38 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, deux fois moins que le samedi d'avant. Un samedi marqué encore par des violences contre des policiers à moto, injures antisémites aussi dans le métro parisien. Éric Drouet, l'une des figures du mouvement, lui sera jugé dans près de 6 mois, le 5 juin prochain, pour port d'armes prohibées. Il a été arrêté samedi avec une sorte de matraque sur lui. Enfin, dernier exemple, un pantin du président Macron décapité vendredi soir à Angoulême. Une enquête pour provocation au crime et outrage a été ouverte en Charente. Mais quelles sont réellement les sanctions encourues quand on s'en prend à l'image du chef de l'État? Réponse avec Maxence Lambrecq.
Que ce soit Emmanuel Macron, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, tous les trois ont un jour vu leur marionnette brûlée en place publique à la fin d'une manif. Et à l'heure qu'il est, personne n'a jamais été condamné pour cela. La dernière fois, c'était au printemps, à Nantes, au bout d'une potence en bois, l'effigie du président avait été brûlée. Le parquet avait alors ouvert une enquête pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Cette fois, cela dépasse l'outrage, donc avec la décapitation, il serait question d'incitation au crime. Un délit bien plus grave, les auteurs encourent jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Encore faut-il que la procédure aille à son terme. La dernière fois qu'un manifestant a été condamné pour s'en être pris au président, la Cour européenne des droits de l'homme était intervenue et avait sanctionné la France pour atteinte à la liberté d'expression. C'était en 2008, à Laval, face à Nicolas Sarkozy, un homme avait brandi une pancarte « Casse-toi, pauvre con ». Il avait écopé d'une amende de 30 euros pour offense au chef de l'État. Mais depuis 2013, sous la pression de Bruxelles, ce délit a disparu du code pénal. Insulter le président équivaut maintenant à insulter un député. Cela peut vous coûter en théorie 12 000 euros.
Maxence Lambrec, on le disait, le mouvement des Gilets jaunes risque de ralentir avec les fêtes, mais il va continuer. Des actions sont encore prévues un peu partout en France, même pendant la trêve des confiseurs. Des actions qui, depuis le début du mouvement, depuis le 17 novembre, s'en sont souvent pris au radar, symbole de l'État et du fisc. Selon radarauto.com, 65% des radars auraient été vandalisés, plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts. Un coût financier donc, mais aussi un coût humain, estime pour sa part Chantal Perrichon. Elle est présidente de la Ligue contre la violence routière.
La destruction des radars va bien évidemment à l'encontre de ce que nous souhaitons, puisque les gens s'imaginent qu'ils peuvent ne plus respecter les limitations de vitesse. Il faut quand même rappeler que c'est grâce aux radars qui ont été mis en place en 2003 que nous avons pu sauver dans ce pays environ 40 000 vies. C'est une technologie qui a permis de mettre un terme à tous ceux qui finalement décidaient que les règles n'étaient pas pour eux et qui, lorsqu'ils avaient un PV, le faisaient sauter. C'est donc un système qui a restauré de la légalité entre les citoyens. Et nous déplorons que ceux qui finalement, pour faire passer des pulsions de haine qu'ils ont à l'égard de la société, qu'ils s'autorisent à casser des systèmes qui permettent de sauver des vies.
Chantal Perrichon avec Delphine Evenoux. A noter cet appel à la grève aujourd'hui dans les magasins Apple à l'initiative de la CFDT, un préavis en réaction au refus d'Apple France de verser une prime exceptionnelle de fin d'année, au motif, selon Apple, que des efforts importants ont déjà été consentis.
Il est 7h37, direction la Chine pour des festivités de Noël très attendues.
Oui, après avoir été surtout une fête commerciale pour beaucoup de Chinois, Noël rentre peu à peu dans les traditions, dans les écoles, les enfants préparent des désormais cette fête chrétienne et surtout pour les 10 millions de catholiques chinois. Cette année, Noël a un sens un peu particulier avec l'accord historique qui a été signé en septembre dernier entre le Vatican et le régime communiste. Reportage à la cathédrale du Nord de notre correspondante en Chine, Dominique André.
La messe de minuit sera célébrée par l'évêque de Pékin. Il appartient à l'église patriotique, inféodée au régime communiste. Les catholiques de Chine, fidèles à cette église officielle, fêtent cette année Noël, rassurés par un texte qui pose les jalons d'un rapprochement entre le Saint-Siège et Pékin. Le Vatican et la République populaire de Chine n'ont plus de relations diplomatiques depuis 67 ans. Jin, jeune catholique chinoise, prépare la fête de Noël avec émotion.
Noël est la fête la plus importante dans ma vie. Moi, je ne fête pas le Nouvel An chinois, qui est pourtant la fête la plus grande en Chine. Pour moi, c'est Noël qui a une signification très importante, parce que dans ma vie, ma foi me soutient beaucoup depuis mon enfance. Je remercie ma famille catholique de m'avoir transmis ces valeurs. Je suis très contente à Noël. Jésus est venu dans ma vie. Je dois bien l'accueillir.
Les chrétiens sont contrôlés de manière drastique en Chine. Ces derniers mois, des églises ont été détruites et la vente de Bibles réprimée. Ce soir, ils seront nombreux à se rendre à la messe de minuit. Pékin, Dominique André, France Inter.
Voilà, c'est ce soir aussi par ailleurs à Rome que le pape qui vient tout juste de faire souffler ses 80 bougies célébrera Noël. Là, c'est dans la basilique Saint-Pierre. Un Noël plus compliqué en revanche pour les touristes aux États-Unis. Certains parcs nationaux seront fermés. La faute au shutdown qui commence à faire sentir ses effets et qui pourrait durer plusieurs jours. Pas de Grand Canyon pour les Américains donc, mais où que vous fêtiez Noël, attention en tout cas aux fortes sensations ce soir et aux abus en tout genre. En clair, ménagez votre petit cœur. Et oui, selon une étude suédoise, le risque d'infarctus du myocarde augmenterait de 37% le soir du réveillon de Noël et il atteindrait même son pic maximal à 22h. Les explications de Véronique Julia.
Les chercheurs de 4 universités suédoises ont épluché les dossiers médicaux de près de 300 000 personnes admises à l'hôpital pour un infarctus entre 1998 et 2013. C'est là qu'ils ont constaté que le soir de Noël est à risque, surtout chez les personnes âgées de plus de 75 ans, celles qui ont un diabète connu ou une maladie coronarienne. Parmi les explications probables, le stress inhérent à cette soirée un peu particulière, les excès alimentaires, l'alcool, le manque de sommeil et la chute parfois brutale à cette époque des températures, le professeur de médecine d'urgence Frédéric Lapostole.
Ça demande des efforts à notre organisme de lutter contre le froid, ça consomme un peu plus d'énergie. C'est pour les mêmes raisons que quand on regarde à la loupe, on observe qu'il y a un peu plus d'infarctus ou d'arrêt cardiaque dans les gares ou dans les aéroports, parce que c'est un endroit où on va un peu plus se stresser, un peu plus courir, un peu plus s'agiter. Et puis, quand on regarde la télé, il va y avoir un peu d'émotion de regarder son équipe préférée qui gagne ou qui perd, et ça, ça a été observé.
Le médecin rappelle que la consommation de tabac expose beaucoup plus au risque d'infarctus que les huîtres ou le stress de Noël. Traditionnellement, ce soir-là ou le lendemain, les urgences sont sollicitées pour des plaies à la main. Elles résultent souvent de l'ouverture maladroite des fruits de mer, sollicitées aussi parfois pour des œdèmes aigus du poumon auxquels s'exposent les insuffisants cardiaques quand ils font des entorses à leur régime sans sel.
Véronique Julia du service santé de France Inter.
On termine, Sébastien Logénie, avec l'arrivée, c'est plus léger, l'arrivée du gros bonhomme rouge dans la cheminée.
Il va tenter d'y passer dans cette cheminée, pas toujours facile. En tout cas, les enfants seront là pour l'attendre. Alors comment se passe cette nuit un peu spéciale? Réponse avec deux experts en Père Noël, Yanis et Léna, 6 et 9 ans. Olivier Estran les a rencontrés.
Ah oui, parce qu'ils ont été très sages tous les deux, c'est certain. Alors ils espèrent que le Père Noël va bien apporter tout ce qui est marqué sur leurs lettres.
Bah, une Nintendo Switch, des jeux sympas, quoi, des Playmobil. J'ai commandé aussi un kart et une baguette magique d'Harry Potter.
J'ai commandé une machine à poterie et c'est une baguette.
Bah, faut pas mettre trop parce qu'après, tu seras un peu, comment dire, pas très content s'il te ramène pas exactement ce que tu voulais.
Faut pas qu'il y ait trop de cadeaux parce que sinon le Père Noël il va être perdu et puis il trouvera pas tous les jouets.
Voilà, autant rester prudent, ça n'empêche pas une petite angoisse pour Yanis.
On n'a pas de cheminée, enfin on a des cheminées, mais elles sont pas, enfin c'est pas des vraies. Mais sinon, il passe par la porte.
Bon, on rassure tout le monde, le bonhomme rouge arrive toujours à se débrouiller. Yanis a déjà tenté de le surprendre en plein travail sans y arriver.
Ah ouais, des fois, ouais. Moi, j'ai un couche-tard, lève-tôt. Ouais. Donc, je me dis, quand je me réveille, bah, je me dis, allez, j'y vais. Et puis, si je vois le Père Noël, c'est trop bien.
S'il y en a un qui dort encore, ben oui, on va le réveiller parce que sinon, les autres, eh ben, ils vont attendre trop longtemps. Et puis ensuite, dès que tout le monde est là, eh ben, on commence à les ouvrir, on sort les téléphones et les appareils photos pour prendre des photos et des vidéos.
Des souvenirs qui restent parfois gravés toute une vie. On souhaite à tous un très joyeux Noël.
Voilà, Olivier Estran de France Bleu, Alsace. Joyeux Noël à lui, à Yanis et à Léna et à vous, Frédéric.
Et à vous, Sébastien Logénie, et à tous les auditeurs de France Inter.